Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol?
Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie.
Vous savez, c'est un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un mot dont on ne sait pas tellement le contenu.
Au fond, il y a des mots en péril comme il y a des châteaux en péril et vous êtes partis à leur secours.
Le travail, ça vous ennuie?
Le travail?
De travailler.
C'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, c'est pas exactement du travail, c'est ce qui me plaît.
Qu'est-ce que c'est qui vous plaît?
Faire des courses automobiles. Ça m'ennuie absolument pas, parce que c'est une passion pour moi. Et si je peux pas faire ça, je fais rien d'autre de toute manière.
Ce que je veux, c'est le travail, par exemple, rémunéré. Je veux être mon patron, si vous voulez. Moi, j'aimerais un certain travail de chercheur, si vous voulez. Dans un sens, j'adore l'histoire, c'est ma passion. Donc, des recherches historiques, ça m'intéresserait beaucoup. Par exemple, mettre des boulons, ça zéro, ça c'est pas possible pour moi.
Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont obligés d'en mettre?
Je les plains. Je les plains vraiment parce que moi, je ne pourrais pas.
Alors, encore une fois, je pense que le confinement, ça a fait prendre conscience de beaucoup de choses à beaucoup de gens. Personnellement, j'en avais déjà conscience, mais effectivement, je n'ai aucun besoin de travailler si ce n'est de gagner ma vie. Je veux dire, pendant ces 2 mois, j'étais en chômage partiel, enfin, donc j'étais payée à rester chez moi, mais je ne me suis pas ennuyée une seconde. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens, en fait. Il faut distinguer le travail de l'activité. C'est-à-dire que les gens travaillent parce qu'ils doivent gagner leur vie, mais si demain ils gagnent au loto, qu'est-ce qu'ils feraient de leur journée? Sans doute pas rien, bien sûr que non. Ils resteraient pas à regarder la télé, j'imagine.
En fait, j'ai raconté une histoire, si tu veux. Pendant longtemps, je me suis dit que je pouvais faire... Et d'ailleurs, c'est ce que je disais aux copains musiciens. Moi, je suis musicien, mais je pourrais faire n'importe quoi d'autre, en fait. Enfin, je crois que je m'éclaterais dans tout. Quel que soit le métier que je fasse, je pense que je peux avoir beaucoup de plaisir. J'aimerais bien que ce soit vrai. Maintenant, j'en suis pas du tout sûr. Et ce qui m'a fait changer un peu ce qui m'a rendu moins sûr de ça, c'est que je me suis blessé à un moment donné. Et j'ai dû m'arrêter de jouer pendant plusieurs mois. Mais complètement. Je pensais vraiment que j'allais profiter de ce moment pour apprendre des langues, me pencher, lire, apprendre des choses. Et en fait, non, j'étais plutôt un peu en dépression, tu vois. C'est-à-dire, il y avait une espèce de vide et une grande frustration de pas travailler, de pas pouvoir travailler mes instruments. Et je me suis dit, si je devais changer de métier, ce serait peut-être pas si facile.
On entend ça à longueur de journée. Toute la journée, tu brailles et tu chantes devant la glace, tu fais des grimaces. Hein?
Bah alors, faut bien que je m'apprenne aussi. Un jour, monte sur scène, faut bien que je m'apprenne quand même, non? Tu ne pourras pas?
Oui, mais il faudrait peut-être que tu fasses autre chose, parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois toujours là, planté devant ce tourne-disque. Hein? Alors... Depuis un mois que tu ne travailles pas, depuis un mois que tu ne fais rien. Hein? Et tu crois que ça peut continuer comme ça?
Mais moi, je veux chanter. Je te l'ai déjà dit, je te le répète. Je veux chanter, j'y arriverai, c'est tout.
Enfant, je n'avais... J'ai jamais eu de... Je me suis jamais dit, je vais faire tel métier, précisément. Par contre, je me rappelle d'un moment, quand j'étais petite, où je m'étais dit, en fait, je veux penser. Ce que je veux faire, c'est penser. C'était con. Mais en fait, c'est pas... Je m'y retrouve un peu, quoi. Mais effectivement, je me projetais pas dans un métier... précis.
En fait, mon père, c'est quelqu'un d'assez pudique et assez secret. Et c'est peut-être même l'une des clés qui a fait que finalement, on est allé vers... Parce qu'avec mon frère, on travaille tous les deux la même percussion que lui joue. Lui, c'est un maître vraiment des percussions persanes qui s'appelle le zarb. Et c'est vrai que depuis qu'on est enfant, on l'a toujours entendu travailler à la maison, faire ses gammes. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu veux... Probablement, le fait d'aller travailler la percussion qu'il jouait, c'était aussi un moyen d'aller vers lui et de faire un pont entre cet homme qui était qu'on voyait peu, qu'on respectait. Moi, quand j'étais gamin, c'est génial parce que j'étais très impressionné, quoi. Il m'impressionnait beaucoup. Je pouvais éventuellement avoir un peu peur de lui, alors que bon, c'est une crème en vérité. C'était vraiment quelqu'un hyper gentil.
Moi, je ne suis pas d'accord avec le mot, non. Parce que... Enfin, il faudrait savoir exactement ce que veut dire la vocation.
Oui, non, mais attention.
Mais la vocation, enfin, je ne sais pas s'il faudrait prendre un dictionnaire pour voir exactement le sens du mot vocation.
Mais
ce qui vous gêne, c'est la proximité avec l'expression religieuse, le sens religieux.
Oui, et puis alors c'est cette espèce d'appel que ça a l'air d'être. C'est quelque chose qui a l'air d'être extérieur. Alors que moi, pour moi, c'est une chose qui est venue très, très naturellement, comme ça. Et un beau jour, quand même, j'ai su que je serais peintre, au fond de moi.
Il y a une espèce de virage vers 16-17 ans, d'ailleurs, où j'ai commencé à écouter. À l'époque, c'était des cassettes, tu sais, des cassettes audio, quoi. Et j'écoutais les concerts qu'il avait fait, toujours avec des grands maîtres iraniens de musique savante classique. C'était des concerts où j'avais pu aller voir quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais sorti parce que je trouvais ça vraiment pas intéressant, quoi. C'est marrant. Ouais, ouais. Et bon, et voilà. Et donc, après, je réécoute ça beaucoup plus tard, adolescent. Et là, à la fin de l'adolescence. Et là, c'est comme vraiment une révélation, quoi. Je suis bouleversé par cette musique.
L'été, j'allais souvent déjeuner au parc Monceau, qui est juste à côté du musée Jacques Marandré. Et souvent, je voyais les jardiniers travailler dans. Et je me disais, oh là, la chance qu'ils ont. Et je me disais, mais moi, je vais devoir me renfermer dans mon bureau. Là, il fait un temps magnifique, il est 14h. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ils avaient l'air heureux. Enfin, ça a aussi joué, je pense.
Mais si elle veut avoir de la joie dans son travail, il faut qu'elle soit armée pour le faire. Or, il faut une formation, une petite formation. Il faudrait qu'Evelyne veuille bien suivre quelques cours tout de même. Il existe une très bonne école qui répondrait, je crois, à ce qu'elle désire. Mais il faut qu'elle veuille bien suivre quelques cours.
Mon père était beaucoup en concert. Mais quand même, quand je lui ai dit que je voulais jouer du zarb et que je voulais travailler ça sérieusement, il a été très généreux dans l'enseignement, pour le coup. Et c'est vrai que c'était complètement incroyable, parce que je pense qu'il y avait toute une espèce de maturation par imprégnation, tu vois. Et quand on a commencé à travailler ensemble, c'est allé très très vite. J'ai des souvenirs aussi très drôles. Où il y a des élèves qui viennent, qui sont des percussionnistes, qui sont des batteurs, qui viennent prendre des cours. Et en fait, moi, je suis là à jouer avec mes petites voitures, avec mes bouquins, mes jeux. Et puis, de temps en temps, je prenais la percussion. Et puis, je joue les trucs que mon père montre, tu vois, mais tout de suite. Et les mecs étaient souvent verts.
Alors, donc moi, j'étais chargée des locations d'espace dans un musée. Donc, je m'occupais des événements d'entreprise. Je faisais ça depuis plusieurs années, dans plusieurs lieux, successivement, et j'en ai eu marre à un moment de faire ça. Et j'ai voulu changer complètement, ce qui m'a amené à devenir jardinière, après avoir fait une formation. J'ai grandi en appartement, j'ai toujours vécu en appartement, mes parents sont des gens d'appartement. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu des petites plantes, j'aime bien m'en occuper, mais... voilà, non, c'était pas du tout, j'y connaissais rien. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qui me... Mon premier métier, j'y connaissais absolument rien non plus. Ça me dérange pas. Je pense qu'on peut tout à fait faire 1000 métiers dans sa vie, et je pense qu'on apprend tout sur le tas, en fait.
Très agréable, ce métier, vous savez. C'est un jardin, quand même. Hein.
Parce que ça vous donne des possibilités d'expression. C'est pas un métier bêtement manuel.
Non, pas du tout, pour moi, non.
Est-ce que vous étiez intéressé par le côté financier aussi de ce métier?
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'ai pas pensé, vous voyez, mais j'ai toujours eu l'impression n'importe comment que j'allais pas rester ce que j'étais, vous voyez.
Est-ce qu'on peut vous demander combien vous gagnez à peu près?
Eh bien, 200, 250 000 francs par mois à peu près. Mais avec mes pourboires, hein, parce que j'ai été très bon pourboire.
Finalement, c'est un très gros salaire par rapport au peu d'études que vous avez faites pour arriver.
J'ai pas fait d'études du tout, même. Hein. C'est une chose, c'était un don chez moi. Quoi.
Il y a quand même, on a toujours droit, quand même, toujours à des choses du style qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis musicien. Mais je te jure, ça existe encore, hein, même aujourd'hui. Hein. Et je l'ai beaucoup entendu. D'accord, c'est super, mais sinon. De sérieux, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu
Mais en vrai, tu fais quoi?
De nos jours, c'est plutôt... En fait, tu t'es pas reconverti dans un métier manuel avant 50 ans, t'as raté ta vie, quoi. En gros, c'est ça. Non, mais vraiment,
non,
le nombre de gens, et même Maintenant, il y a des jeunes, ils passent même pas par la case vrai boulot. À la fin de leurs études, ils se disent tout de suite, non, mais je vais faire un truc qui me plaît vraiment. Il y a tellement de gens qui aspirent ou qui se reconvertissent dans des métiers qu'avant, qui étaient dévalorisés, que on voit autrement les métiers bien payés et en fait, où les gens s'ennuient ferme. En fait, c'est une question de génération. Enfin, les grands-parents, les parents ont plutôt eu un phénomène d'ascension sociale, donc de métiers manuels, ouvriers, peu valorisés. Pour eux, l'ascension, c'était de faire des études, de faire un métier intellectuel dans un bureau où on ne se fatigue pas. Mais maintenant, les gens qui ont fait ce chemin se rendent compte que, en fait, effectivement, ils exercent un bullshit job et qu'ils ont beau être tranquillement assis, ils n'en peuvent plus, en fait. Et ils ne trouvent pas de sens dans leur travail, ils en trouvent davantage dans un métier manuel qui était dévalorisé auparavant.
Toujours les mêmes, ils sont dirigés par les technocrates, les intellectuels. Ceux qui n'auront que le certificat d'études sont toujours en dessous. Si, sûrement, la preuve, vous êtes 80% d'intellectuels ici. Et moi qui n'ai que mon certificat d'études, eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable.
Déjà, mes précédents boulots ne me nourrissaient absolument pas intellectuellement. En fait, ils m'ont nourri intellectuellement parce que on apprend de tout. C'est-à-dire que, et même enfin, j'ai appris beaucoup sur l'entreprise en tant qu'élément, quoi. Enfin, le fonctionnement de l'entreprise, les tensions, la hiérarchie, enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Mais intellectuellement, non. Enfin, je pense qu'à part quelqu'un qui serait chercheur, il y a très peu de métiers où vraiment on a. Moi, je qualifierais d'intellectuel. En fait, ce que je trouve intéressant, justement, dans le fait d'exercer un métier manuel, c'est qu'on a l'esprit libre. Quand on fait un travail manuel, on peut penser. Alors que avant, je résolvais des problèmes, j'appelais des gens, j'écrivais des mails, je faisais de la paperasse, l'esprit est pris toute la journée. On ne peut pas penser à quoi que ce soit d'autre. Alors que là, j'ai toute la journée, en fait. On a grandes conversations philosophiques avec ses collègues. Enfin, moi, je trouve qu'un des grands plaisirs du travail, c'est de parler avec ses collègues. C'est toujours un des points, finalement, qui me paraît le plus important dans le travail, c'est la qualité des collègues et les relations et les conversations qu'on peut avoir avec. Dans ce cadre, hein, je trouve que souvent, le cadre contraint du travail, justement, favorise des conversations parce que c'est quelque part du temps volé au travail. Et d'où l'intérêt de ces conversations. Donc, sinon, on peut penser à plein de choses. Et justement, enfin, moi, je trouve que l'activité manuelle, le corps en mouvement, ça favorise grandement le parcours de l'esprit.
Moi, j'ai envie de te dire que c'est être musicien, c'est la quête d'une vie un peu. C'est vraiment et c'est plus que la quête d'une vie, c'est apprendre la vie, une manière d'apprendre la vie. D'abord, il y a ce rapport effectivement à la quête de à la fois d'un son et d'un langage, parce que la musique, qu'est-ce que c'est? C'est des suites de sons, ou pas de sons d'ailleurs. Le silence fait partie évidemment de la musique. On développe les outils techniques, on développe un langage aussi, une manière de faire des choses qui font du sens avec un instrument. Donc c'est difficile, mais en même temps, c'est incroyable, cette espèce de travail comme une méditation un peu. Et on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, de toute manière, on joue ce qu'on est, un petit peu. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que ça veut dire qu'on est obligé de s'interroger sur ce qu'on est. Donc il y a à la fois ce côté intérieur, et puis on donne des choses aux gens, on ne joue pas que pour nous aussi. Et donc il y a ce travail aussi d'aller vers les gens, de jouer pour eux, qui est aussi quelque chose de passionnant.
Je vais me mettre d'hôtel. Eh ben, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai.
Je pense que le problème du travail... Enfin, j'avais vu une petite carte postale humoristique qui disait, je sais plus... j'adore mon travail, mais le problème, c'est qu'il me bouffe ma journée. En fait, c'est ça. Moi j'aime mon travail, franchement. Ça m'a manqué pendant le confinement d'être, justement, enfermée dans mon appartement. J'aime être dehors, dans la nature. C'est apaisant. Enfin, c'est vraiment très agréable. Mais le problème, c'est que j'y passe ma journée. Et moi, j'aurais besoin d'une deuxième journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Enfin, je sais pas, m'informer, lire, écouter de la musique, faire de la musique. Enfin, on a beaucoup de choses à faire. C'est un mythe. C'est un mythe, attendre que le travail te comble. Mais ça, c'est de l'intox. C'est pour te faire croire que, mais bien sûr, tu seras tout à fait comblé d'être au travail toute la journée. Et c'est faux. C'est pour maintenir les gens au travail toute la journée. Après, il faut bien savoir que là, on parle de la conception du travail qui est dans notre société actuelle et qui, à mon sens, devrait complètement changer.
Pas un pour vous travailler, enfin.
Non, non, je m'amuse.
Ah, vous
c'est bien la première fois, d'ailleurs, que je m'amuse en travaillant.
Vous voyez, restez avec moi, vous vous amuserez tout le temps.
Mais alors, comment vous avez acquis cette philosophie? Parce qu'en général, les gens travaillent pendant 5 jours et se reposent pendant 2 jours.
Oh, je suis né
Par exemple, vous faites la semaine anglaise à l'envers.
C'est-à-dire que ça doit être une semaine française, je ne sais pas, moi. Enfin, c'est une semaine... C'est pas des semaines, ce sont des années, puisque je ne fais rien.
Mais ça vous dérange pas pour la morale?
Quelle morale? Mais quelle morale? Je ne fais rien, je vous dis.
Mais écoutez, c'est révoltant que vous nous disiez ça.
Comment c'est révoltant?
Mais oui, c'est révoltant.
Je sais pas ce qui me retient, ça doit être la peur.
Opportunity, the one that never knocked. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the Jordan Gulf. I hate the seven savage boom. I won't open that phone for you. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the dock. Career opportunity, the one that never knocked.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.